12. Mia tendit une nouvelle fois le doigt en direction de la gare expérimentale de l'Arc 16. Ce qu'elle appelait le Dogan des Doganes. Un dernier vestige de sourire s'attardait sur ses lèvres, mais toute joie ou tout amusement en avait disparu. Elle avait les yeux brillants de peur et peut-être d'admiration craintive.
C'est là qu'ils m'ont changé, qu'ils m'ont rendu mortel. Autrefois, il y avait des tas d'endroits comme celui-là. Il y en avait forcément des tas. Mais je jurerai par ma montre et mon billet que c'est le seul qui reste dans tout le monde de l'intérieur, l'entre-deux-mondes et le monde ultime. C'est un lieu à la fois merveilleux et terrible, et c'est là qu'ils m'ont emmené.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Susanna repensait à son Dogan à elle. Lui-même fondé, bien sûr, sur le Dogan de Jake. C'était assurément un lieu étrange, avec ses éclairs lumineux et ses multiples écrans de télé, mais pas effrayant.
En sous-sol courent des souterrains qui mènent au château. Au bout de l'un d'eux se trouve une porte qui ouvre sur Tonnefoudre, côté Lacala, juste en dessous du dernier croissant de ténèbres. C'est celui qu'empruntent les loups pour leur rafle.
Susanna hocha la tête. Voilà qui expliquait beaucoup de choses.
Est-ce qu'ils ramènent les gosses par le même chemin?
Non pas, jeune dame, ne t'en déplaise. Comme bon nombre de portes, celle qui transporte les loups de Fédic à Tonnefoudre est à sens unique. Une fois passée de l'autre côté, on ne la voit plus.
Parce que ce n'est pas une porte magique, c'est ça?
Mia sourit et opina de la tête en se tapotant le genou. Susanna la considéra avec une excitation croissante.
C'est encore une histoire de jumeaux.
Dis-tu ainsi?
Oui. Sauf que cette fois-ci, Pince-mi et Pince-moi sont respectivement la science et la magie. Le rationnel et l'irrationnel, la santé et la folie. Peu importe quelle dichotomie tu choisis, c'est toujours bel et bien une fichue paire.
Si fait, tu dis ainsi.
Oui. Les portes magiques, comme celle qu'Eddie a trouvée, par laquelle tu m'as forcé à revenir à New York, sont à double sens. Les portes conçues par North Central Positronics pour les remplacer quand le prime s'est retiré et que la magie s'est évanouie, elles sont à sens unique. Est-ce que j'ai raison?
Je crois bien, si fait.
Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de découvrir les secrets de la téléportation, qu'ils n'ont pas trouvé l'autoroute à deux voies à temps avant que le monde change. Quoi qu'il en soit, les loups se rendent à Tonnefoudre côté Lacala par une porte et ils rentrent à Fédic par le train. Exact?
Mia acquiesça. Susanna n'avait plus l'impression d'essayer simplement de tuer le temps. Cette information pourrait se révéler très utile par la suite.
Et une fois que les hommes du roi, les ignobles du père Callahan, ont récuré le cerveau de ses enfants, qu'advient-il? Ils repassent la porte avec eux, je suppose. Celle située sous le château. Ils retournent au quartier général des loups et de là un train les ramène jusque chez eux.
Si fait.
Pourquoi prennent-ils la peine de les ramener?
Jeune dame, je n'en sais rien.
Puis la voix de Mia chancela.
Il y a une autre porte sous le château Discordia. Une autre porte dans les chambres de la ruine. Une qui va...
Elle s'humecta les lèvres.
Qui va à Vahadash?
Vahadash? Je connais ce terme, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible là?
Il existe des mondes infinis. Tondine a raison à ce propos, mais même lorsque ces mondes sont proches, comme certains des multiples New York, il existe des espaces infinis entre eux. Ils sont comparables aux espaces qui s'étendent entre les murs intérieurs et les murs extérieurs d'une maison, par exemple. Des endroits toujours plongés dans le noir. Mais ce n'est pas parce qu'il fait noir quelque part que c'est le vide. N'est-ce pas, Susanna?
Il y a des monstres dans les ténèbres, Vahadash.
Qui avait dit ça? Roland? Elle n'était pas certaine de se le rappeler, et quelle importance!
Elle crut comprendre ce que disait Mia et, si c'était bien ce qu'elle supposait, c'était effroyable.
Des rats dans les murs, Susanna. Des chauves-souris dans les murs. Toutes sortes d'insectes suçants et mordants dans les murs.
Arrête ! Je crois que je vois le tableau.
Cette porte sous le château. C'est une erreur qu'ils ont commise, j'en suis sûr. Elle ne va nulle part. Elle ouvre sur les ténèbres entre les mondes. L'espace va à dash, mais pas vide.
Sa voix baissa encore d'un ton.
Cette porte est réservée aux ennemis les plus farouches du Roi Rouge. Ils sont envoyés dans des ténèbres où ils peuvent exister, aveugles, errants et déments, pendant des années. Mais à la fin, quelque chose finit toujours par les trouver et par les dévorer. Des monstres que des esprits comme les nôtres sont même incapables de concevoir.
Susanna se surprit à essayer de se représenter une telle porte et ce qui attendait derrière. Elle ne le voulait pas, mais ne réussit pas à s'en empêcher. Elle eut soudain la bouche sèche. Sur ce même ton de confidence ignoble, Mia agita.
Il y avait des tas d'endroits où les anciens tentaient de réunir la magie et la science. Mais celui-là pourrait bien être le dernier,
dit-elle avec un mouvement de tête en direction du Dogan.
C'est là que Walter m'a emmené, pour me rendre mortel et me placer pour toujours hors de la voie du prime. Pour me faire tel que toi.
13. La femme enceinte ne savait pas tout, mais pour ce que Susanna put en constater, Walter Flagg avait offert à cet esprit qui devait plus tard s'appeler Mia, l'avatar des marchés faustiens. Si elle était capable de renoncer à son état d'immortel, bien que désincarné, pour devenir mortelle, alors elle pouvait bien être enceinte et porter un enfant. Walter avait été franc avec elle concernant le peu qu'elle recevrait, en échange de tout ce qu'elle aurait abandonné. Ce bébé ne grandirait pas comme les bébés normaux. Comme Michael, le bébé avait grandi, sous les yeux invisibles mais humides d'adoration de Mia. Et il se pouvait tout à fait qu'elle ne l'ait pour elle que pendant ses 7 premières années. Mais oh, quelles années merveilleuses ce seraient! Après ça, Walter s'était tu avec tact, laissant Mia se faire ses propres images. Comment elle changerait les couches du bébé, lui donnerait le bain, sans oublier les petits plis tendres derrière les genoux et les oreilles. Comment elle embrasserait ce petit coin tout doux entre les petites ailes naissantes de ses omoplates. Comment elle se promènerait avec lui, tenant ses deux petites mains dans les deux siennes en l'aidant à avancer. Les livres qu'elle lui lirait, les choses qu'elle lui apprendrait. Tendant le doigt vers la vieille mère et le vieil astre, en lui racontant comment Sam le Rouillot avait volé la meilleure miche de pain de la veuve. La façon qu'elle aurait de le serrer contre elle et de lui baigner les joues de ses larmes de reconnaissance quand il prononcerait son premier mot, qui serait bien sûr « maman ». Susanna écouta ce récit plein d'extase avec un sentiment mêlé de pitié et de cynisme. Walter avait vraiment fait du très bon boulot en lui vendant cette idée. Et comme toujours, le moyen le plus sûr de ferrer le poisson avait été de laisser faire son imagination. Il lui avait même fait miroiter une période de propriété carrément satanique. 7 ans.
Vous n'avez qu'à signer en bas, madame. Et ne vous souciez pas de ce relent de soufre. C'est incroyable comme ça colle aux vêtements, cette odeur.
Susanna comprenait le marché et avait toujours du mal à l'avaler. Cette créature avait reçu le don d'immortalité et elle l'avait bradé contre les nausées matinales, des seins gonflés et douloureux et, dans les 6 dernières semaines de sa grossesse, l'envie de faire pipi approximativement toutes les 12 minutes. Et attendez, mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. 2 ans et demi passés à changer des couches gorgées de pisse et plombées de merde. À se lever la nuit au moindre hurlement du gosse, qui se tord de douleur à cause de sa première dent qui perce.
et réjouis-toi, Man, plus que 31. Et ce premier jet magique, le premier jet d'urine tout chaud qu'on reçoit en pleine figure quand le petit se lâche, juste au moment où on change sa couche. Eh oui, il y aura de la magie. Bien que n'ayant jamais eu d'enfant elle-même, Susanna savait qu'il y aurait de la magie jusque dans les couches sales et les coliques, si cet enfant était le fruit d'une union d'amour. Mais avoir un enfant, puis se le faire enlever au moment où ça devient vraiment bien, juste quand cet enfant approche de ce que la plupart des gens appellent l'âge de raison, l'âge fiable et responsable. Pour le voir livré au roi cramoisi, c'était là une idée effroyable. Mia était-elle hypnotisée par sa maternité imminente au point de ne pas voir que le peu qu'on lui avait promis était déjà rogné? Walter Flagg était venu à elle à Fédic sur les décombres de la mort rouge pour lui promettre 7 années avec son fils. Cependant, au Plaza Park, Richard Sayre n'avait parlé au téléphone que de 5 ans, à peine. Quoi qu'il en soit, Mia avait accepté les conditions de l'homme en noir. Et sérieusement, quelle jouissance avait-il pu en tirer, voyant combien c'était facile? Elle était faite pour être mère. Elle s'était relevée du prime, avec cet impératif. Elle en avait eu conscience elle-même depuis qu'elle avait aperçu son premier bébé humain parfait, le petit Michael. Comment aurait-elle pu refuser? Même si l'offre n'avait été que de 3 ans, ou même d'une seule année, comment refuser? Autant attendre d'un junkie de longue date qu'il refuse une seringue pleine qu'on lui tendait. On avait emmené Mia à la gare expérimentale de l'Arc 16. Toujours souriant et sarcastique, et sans aucun doute effrayant, Walter lui avait fait faire le tour du propriétaire. Walter, qui se faisait parfois appeler Walter du monde ultime, ou encore Walter des tout-mondes. Elle avait vu la grande salle remplie de lits, attendant les enfants qui viendraient les remplir. À la tête de chaque couchette, un casque en acier était accroché, relié à un tuyau chromé articulé. Elle se sentit mal à l'aise en pensant à l'usage qui serait fait de pareil équipement. On lui avait aussi montré certains des passages sous le château sur l'abysse. Elle avait vu des endroits où rôdait l'odeur âcre et suffocante de la mort. Elle, il y avait eu comme un grand noir teinté de rouge, et elle...
« Tu étais déjà devenu mortel à ce moment-là ? »
demanda Susanna.
« À t'entendre, on dirait que c'était peut-être le cas. »«
Je l'étais presque. » C'était un processus que Walter appelait la devenance.
D'accord, continue.
Mais c'est là que les souvenirs de Mia se perdaient en une sombre fugue. Pas le va-à-dash, mais rien d'agréable. Une sorte d'amnésie, une amnésie rouge. Couleur dont Susanna avait appris à se méfier. La transition de cette femme entre le monde des esprits et celui de la chair, son voyage vers Mia, s'était-elle accomplie par une autre forme de porte? Elle-même ne semblait pas le savoir. Tout ce qu'elle se rappelait, c'était un moment de ténèbres. D'inconscience en avait-elle déduit, puis elle s'était réveillée.
Telle que tu me vois. Pas encore enceinte, bien sûr.
D'après Walter, Mia ne pouvait pas réellement faire un bébé, même une fois devenue mortelle. Le porter, oui. Le concevoir, non. Mais il se trouva que l'un des démons élémentaires avait rendu un fier service au roi cramoisi en prélevant la semence de Roland en tant que femelle et en la transmettant à Susanna en tant que mâle. Et il y avait aussi une autre raison à ça. Que Walter n'avait pas mentionné, mais Mia l'avait senti.
C'est la prophétie,
dit-elle en scrutant la rue déserte et sans ombre de Fédic. De l'autre côté, un robot ressemblant à Andy de la Cala se tenait debout en silence, en train de rouiller devant le Fédic Café qui promettait de bons repas pas chers.
Quelle prophétie?
demanda Susanna.
Celui qui achèvera la lignée de l'aîné concevra un enfant de l'inceste avec sa sœur ou sa fille. Et cet enfant sera marqué, on le reconnaîtra à son talon rouge. C'est lui qui sonnera le glas du dernier guerrier.
Femme, je ne suis pas la sœur de Roland, ni sa fille. Il y a un détail qui a dû t'échapper, une différence minuscule mais incontournable, à savoir qu'il a la peau blanche et que la mienne est noire.
Pourtant, elle se dit qu'elle voyait assez bien ce que la prophétie signifiait, malgré tout. Il y avait des tas de façons de faire une famille. Le sang n'en était qu'une parmi d'autres.
« Il ne t'a pas expliqué ce que Dean veut dire ?» demanda Mia.
« Bien sûr que si. Ça veut dire chef. S'il était à la tête de tout un pays, et non pas d'un groupe de trois jeunes chiens fous débraillés, ça signifierait roi. »
« Chef et roi, bien entendu. Maintenant, Susanna, tu vas me soutenir que ces termes ne sont pas de pâles substituts d'un autre ?»
Susanna ne répondit pas. Mia hocha la tête comme si elle avait obtenu sa réponse, puis grimaça sous le coup d'une nouvelle contraction. Quand elle fut passée, Mia reprit.
« Le sperme était celui de Roland. » Je pense qu'il a dû être conservé d'une manière ou d'une autre, grâce à la science des grands anciens, pendant que le démon premier se retournait et est passé de l'état femelle à l'état mâle. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce sperme a survécu et qu'il a trouvé son complément, comme le cas en avait décidé.
Mon ovule.
Ton ovule.
Quand j'ai été violée dans l'anneau de parole.
Tu dis vrai?
Susanna s'assit, perdue dans ses pensées. Elle finit par relever les yeux.
« Il me semble bien que c'est ce que j'ai déjà dit. Ça ne t'a pas plu à l'époque, et ça ne te plaira pas plus maintenant, mais, ma fille, tu n'es rien de plus que la nounou. »
Cette fois, il n'y eut pas d'accès de fureur. Mia se contenta de sourire.
Qui a continué à avoir ses règles, même quand elle avait des nausées le matin? C'est toi. Et qui a le ventre rond maintenant? C'est moi. S'il y a bien eu une nounou, Susanna de New York, c'est toi.
Mais comment est-ce possible? Est-ce que tu le sais?
Mia le savait.